Oui, quand Alain m'a proposé, donc je lui ai demandé sur quoi il souhaitait qu'on partage. Il m'a dit la famille. Puis un verset qui m'est venu tout de suite, c'était Éphésiens 3, 14, 15. Je fléchis le genou devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. Et puis après, c'était je ne vais pas dire un trou noir, mais on ne sait même pas si les trous noirs existent. Mais enfin bon, c'est. Et puis j'étais dans cette réflexion, cette pensée. Et en fait, le Seigneur m'a amené à vivre un peu la situation qu'on est aujourd'hui. Et ça m'a projeté dans des choses que mon père me disait quand il parlait de sa jeunesse. Mon père était né en 1925, c'est-à-dire entre deux guerres. Et il me racontait un peu ce qu'il vivait à la campagne, donc en Saône-et-Loire. Et dans un hameau. Et là, bien entendu, à l'époque, tout était rationné quelque part. Hein. C'est-à-dire qu'on économisait le peu d'électricité, on passait la soirée autour du feu de cheminée, et puis on avait la lampe, petite lampe, la lampe à pétrole, qu'on montait quand on voulait lire, et puis qu'on baissait quand on partageait. Et lui, donc, il était jeune. Et donc, il a vécu cette période comme une période un peu particulière, parce que c'est une période où, suite à la Grande Guerre, il manquait des hommes, ou des hommes qui étaient revenus de la guerre, bien amoindris. Et donc, ça avait encouragé aussi une vie locale, j'allais dire très communautaire. C'est-à-dire que les gens partageaient au niveau des. Ils se donnaient la main pour les cultures, pour les récoltes, ils se donnaient la main. Et ça, ils vivaient une espèce de communion, parce que tout le monde se retrouvait dans la même maison. Il y avait là, pour lui, le colonel qui était à la retraite et qui faisait de la géopolitique devant tout le monde pour expliquer un peu ce qui se passait. Et mon père a grandi là-dedans, c'est-à-dire ça l'avait marqué. Donc je me disais, c'est vrai qu'on a presque l'impression qu'on est en train de rentrer dans cette situation quand on écoute la radio, les choses comme ça, le manque d'électricité, les nuits noires, tout ça, toutes les choses qui sont annoncées. Je dis, tiens, est-ce que ce sont les temps, ces temps-là? Et en même temps, je dirais, c'est ce qui se dégageait de ce partage, c'était vraiment cette chaleur qu'il y avait entre les gens, une communion, une communauté qui vivait. Je dis, c'est vraiment voilà, peut-être que nous sommes appelés à vivre ça. Hein. Peut-être. Mais en tous les cas, je crois qu'on est sommes appelés à le vivre en tant qu'Église, en tant que communauté. Un autre point, un point qui m'est venu, c'était un chef d'entreprise italien qui, à l'époque, voulait vendre en URSS. Donc c'était avant Gorbatchev. Et il m'expliquait que finalement, sa grande difficulté, c'était de trouver des gens qui étaient capables justement, de vendre. Et en fait, l'esprit d'entreprise, l'esprit de vente, de commerce avait disparu à travers le socialisme. Et en cherchant, finalement, il avait retrouvé quelqu'un qui se débrouillait très bien. Cet homme, c'était un juif qui avait grandi dans une communauté où finalement, les traditions, le partage, le Shabbat, la parole, la Torah, et finalement, l'avait construit. En dehors du système. Donc, du coup, en venant tout ça, je me suis dit, Seigneur, c'est vrai qu'on a. Ce sont deux choses qui étaient là, et ce soir, j'avais presque envie qu'on puisse partager autour d'un feu de cheminée. Vous voyez, on n'est pas nombreux. Et j'allais dire, quelque part, laisser couler la parole entre nous, pouvoir partager nos cœurs. Donc, je vais vous partager mon cœur, parce que on n'a pas la possibilité de vivre ça. Mais on peut fermer les yeux, puis être dans cet état d'esprit, de pouvoir partager ça, et de considérer un peu tout ce qu'on a entendu. Moi, j'ai bien aimé ce chant, là, ce soir, qui était de dire, bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Voilà. Bon. Incroyable, hein? Incroyable. Nous touchons vraiment le cœur du cœur le plus profond du Père. Là où nous sommes, nous avons été préparés pour les temps qui sont là. C'est inouï, hein. Donc ce chant, il nous amène quelque chose de très fort. Il nous amène dans une réalité de Dieu qu'il a hérité de la création, où il n'y avait rien, sinon Dieu lui-même. Et Dieu va tout construire avec lui-même. Tout construire avec ce qu'il est. Il n'a utilisé d'aucun matériau, il n'a utilisé que lui. Et il va faire cette création. Et il va amener finalement l'homme, cet homme, à son image. Et je prenais aussi conscience que, en fait, on parle souvent de révélation. Et j'ai dit, Seigneur, en fait, quand tu révèles quelque chose, en fait, tu révèles que pour nous, c'est nouveau, alors que la chose préexiste. Parce qu'elle existe avec, dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. Donc nous sommes dans cette réalité du temps. Je voudrais partager qu'on puisse se laisser envahir par ça. L'autre chose que j'avais, tout à l'heure j'étais assis, j'ai dit en fait il y a beaucoup de monde à droite. Puis après je m'aperçois ici, quand je suis là, comme si j'étais là où, à côté du Père, ce qui était à droite est à gauche. Donc ça veut dire quand même quelque chose de fort, c'est-à-dire que est-ce que je suis en train de voir de là où je suis ? Où est-ce que je suis en train de voir de là où il est? Donc c'est un peu ce parcours qu'on va faire ce soir. De parcours qui nous amène aussi, parce qu'hier, il y avait un partage sur Israël, quelque chose de fort ici qui se passait dans cette église. Merci Seigneur. Et je prenais aussi conscience encore d'une autre chose. Qu'est-ce qui nous sépare entre Israël, entre les Juifs et nous? Une différence énorme. La différence, c'est que les Juifs, Israël, a une conscience finalement du Fils aîné en tant que nation. Nous avons une conscience de fils et de fille en tant qu'individu. Et nous voyons bien que finalement, il y a quelque chose dans lequel le Seigneur nous fait marcher. Moi, je crois que ces 10 ans sont une marche particulière entre Israël et nous. Et en fait, nous avons besoin de recevoir les uns des autres. Nous, la notion de famille, de nation, de la famille-nation, Israël a cette notion-là. Et nous, ils ont besoin de recevoir la filiation. Ils n'ont pas la filiation individuelle, qui a été amenée par Christ, parce qu'elle est amenée que par Christ. Et donc, dans cette réalité-là, bien, on va essayer de voir ce que nous dit ce passage d'Éphésiens 3. Je fléchis le genou devant le Père de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Et donc dans la Bible, on a cette notion de famille qui est largement exposée. Mais je voudrais juste avoir un petit éclairage sur Proverbe. Déjà au niveau de l'homme et de la femme, il est dit que dans Proverbe 12, verset 4, il est parlé de couronne. Il dit que la femme est la couronne de l'homme. Vous rendez compte, la couronne, c'est ce qui est au-dessus. C'est-à-dire que la femme, elle ne doit pas se considérer comme étant en dessous. Elle est au-dessus. Elle est sur la tête. Qu'est-ce qui est sur la tête du roi, qui est au-dessus du roi? C'est la couronne. Donc c'est vraiment, de considérer cette réalité-là d'une épouse qui est de notre femme qui est notre couronne. Une autre chose aussi qui parle du Père. Le Père, finalement, est la gloire des enfants, dans Proverbe 17, 6. Et il nous est dit aussi que les petits-enfants nous parlent encore de couronne, nous parlent de la couronne. Ils sont la couronne des vieillards. Donc on voit qu'on a tout de suite cette notion de famille qui est là complète, avec une bénédiction particulière, avec une relation particulière, avec un regard particulier, où le Seigneur montre finalement cette réalité les petits-enfants qui sont la couronne des vieillards. Je suis toujours surpris combien nous autres, les grands-parents, la première des choses quand on parle, quand on se rend compte, c'est de donner nos étoiles. J'ai 7 petits-enfants, j'en ai 5, j'en ai 2. 3, alors, celui qui n'en a qu'un, moi je démarre, j'en ai qu'un, moi j'en ai 2. Hein. Et je trouve ça magnifique, ça rejoint bien cette notion de cette couronne, c'est-à-dire qu'on va parler de ce qu'on porte et qui est de la transmission. Et c'est là où ça nous éclaire aussi, dans ce proverbe 13-22, où il est parlé justement d'héritage. L'héritage, il ne passe pas, je veux dire, à travers, il n'est pas donné au père, du père au fils, mais il est donné du grand-père aux petits-enfants, nous dit la parole. Et donc, je veux dire, si le Seigneur écrit ça dans sa parole, ça veut dire quand même quelque chose de fort. Ça veut dire quelque chose de fort. Dans tout ce que je viens de dire, on a tout de suite la trace d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est-à-dire la notion des trois générations. Dieu va construire les familles à travers trois générations. Il va construire... Je me suis amusé aussi à regarder au niveau des générations. Et quand on regarde la construction du tabernacle, puisque nous sommes au tabernacle, il est parlé d'un dénommé Betsalel. Et Betsalel, il a un père qui s'appelle Uri et un grand-père qui s'appelle Ur. Et la signification de Ur, c'est trou. On peut dire, mais ça prend tout son sens parce que la signification du riz du père, c'est lumière. Donc il fallait bien qu'il y ait un trou pour que la lumière passe. Et la beauté de la suite, c'est que Betsalel, il s'appelle l'ombre de Dieu. Donc il fallait bien qu'il y ait un trou, il fallait bien que la lumière passe pour qu'il y ait l'ombre de Dieu. Rendez compte. Et je veux dire, à travers cela, c'est rentrer dans cette réalité. Je veux dire, est-ce que on va rentrer ensemble dans cette réalité du cœur du Père. Un trou, une lumière, une ombre, l'ombre de Dieu. L'ombre de Dieu, ça veut dire que quand Dieu bouge, eh bien son ombre bouge. Il fallait que ça soit l'ombre de Dieu pour que ce Betsalel puisse être uni avec Eoliab, qui lui s'appelle la tente du Père, pour construire le tabernacle. Vous vous rendez compte ? Je veux dire, quand nous nous rentrons dans cette réalité du cœur du Père, nous trouvons tous les projets de vie. Et à travers cette parole, qui est une merveilleuse parole, qui nous construit, qui nous bâtit, qui nous fait rentrer dans un plan qui nous dépasse, mais dans lequel nous sommes complètement au milieu de ces pages. Parce qu'à la fin, je dirais, c'est quoi ? Ben, c'est le repas avec l'épouse. C'est la rencontre, et nous sommes l'épouse, et nous sommes dans cette construction. Et j'ai besoin de comprendre, pour vivre aujourd'hui, dans le temps qui m'est donné, dans cette destinée qui m'est donnée, dans cette destinée, dans cette génération dans laquelle je suis, de comprendre le cœur du Père pour ma vie, prédestinée, on l'a vu, avant la fondation du monde, avant la fondation du monde, avant que tout soit existe. J'existais dans le cœur du Père. Et j'existais dans le cœur du Père, à la fois en tant que personne, mais j'existais aussi dans le cœur du Père en tant que famille. Donc souvent, quand on a ce verset, on n'a que la dimension de dire, peut-être des fois, c'est écrit dans ma Bible aussi, puis j'ai posé la question à ma femme, elle a répondu correctement par rapport à ma Bible, c'est de dire, qu'est-ce que ça veut dire ces familles qui sont dans les cieux ? Les familles qui sont dans les cieux, on dit, ce sont nos ancêtres qui sont là-haut. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, Seigneur, il y a tellement de liens entre le ciel et la terre que cette famille, c'est aussi la représentation. En ce qui nous concerne, il y a une famille qui est dans le cœur du Père, qui est en train d'abonder par rapport à ce qu'il a décidé de voir sur la terre. Donc c'est ce cœur à cœur avec le projet de Dieu que j'aimerais vraiment, je dis, Seigneur, donne-nous la capacité de rentrer dans cette perception, et on va essayer de le faire ensemble, de rentrer dans cette compréhension de la famille qui est dans le cœur de Dieu et qui vient finalement amener la réalité de Dieu sur cette terre, dans notre réalité quotidienne. Alors, moi j'aime, vous savez, il y a des hommes que j'aime beaucoup, c'est Noé et Joseph. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces hommes? C'était de préparer un sanctuaire pour la famille. Noé à travers l'arche, Joseph à travers Goshen. Donc, pour pouvoir quoi? Pour prévoir, pour apporter la suite de l'histoire, la capacité du renouvellement des choses. Et donc voilà les premiers principes dans lesquels Dieu nous fait rentrer. Il nous fait rentrer aussi dans cette dimension, on va regarder céleste et terrestre. Céleste et terrestre, comment je peux imaginer si je prends Abraham et Sarai? Un couple, une famille, un couple, oui, complètement terrestre. Complètement construit, j'ai dire, dans les dimensions humaines. Un homme qui s'est marié avec sa demi-sœur, je crois réellement parce que c'est son père qui lui a demandé. C'est pas lui qui l'a choisi. Enfin, j'ai du mal à le croire. Dans une organisation très patriarcale. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que ça n'a pas fait de. Il n'avait pas franchi le pas. Un couple qui était mi-mi, hein, mi-époux, mi-frère et sœur. Et on voit ce que ça va donner. La première épreuve, sécheresse, il faut trouver de l'eau, il faut trouver de l'herbe pour les troupeaux, l'Égypte. Et bien tout d'un coup, la peur, le manque, la crainte pour sa vie, la crainte pour son entreprise amène finalement Abraham à donner, à vendre quelque part sa femme. Il ne vend pas sa femme, il vend sa sœur. Bon, on imagine très bien ce que ça a pu produire dans le cœur de sa femme. Hein, d'être abandonné par son mari, d'être vendu pour sa sécurité. Quoi. Et Dieu va falloir qu'il travaille dans ce couple. Et on va attendre jusqu'à Genèse 17, où va se passer cette nouvelle naissance d'Abraham en Abraham, avec la lettre de qui? La lettre de Dieu, la lettre d'Élohim, qui va venir dans son nom et qui va mener finalement ce changement d'état. Et même lettre qui va venir aussi dans le nom de Sarai, pour devenir Sarah. Nouvelle naissance de l'un, nouvelle naissance de l'autre, nouvelle naissance du couple. Et l'enfant de la promesse vient. C'est-à-dire que la réalité qui était dans le cœur de Dieu va pouvoir se manifester à travers cette nouvelle naissance. On a un autre... La vie continue. Et comme on passe du grand-père au petit-fils, on va sauter sur Jacob. Jacob, c'est beau. Moi, j'aime beaucoup Jacob aussi. Vous savez, j'aime bien marcher avec mes patriarches. Moi, j'ai mon père Abraham, puis j'ai la suite. Et j'aime beaucoup Jacob aussi. Jacob, il a un parcours incroyable. Il va se retrouver, pour fuir finalement le risque de tuer par son frère, il va se réfugier chez son oncle, Laban. Et où est-ce qu'il habite? Et bien justement là où Abraham avait reçu la parole de Dieu qui lui demandait d'aller au fond de lui-même, de quitter son pays, de quitter son père, et d'aller au fond, l'air l'écha, d'aller vraiment au fond de lui-même, de chercher la vie, la source, et puis d'aller rejoindre une terre qui s'appelle Canaan. Canaan, intéressant aussi. Canaan, c'est finalement une terre qui avait été maudite, ou un homme qui avait été maudit, par son grand-père, à cause de la faute de son père. Chercher l'erreur, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Patrimoine, ou quelle richesse était en train de transmettre Noé à son petit-fils. Lui qui aurait dû le bénir, il aurait dû lui transmettre finalement le meilleur. Il le maudit. Et la première des choses que va faire Dieu, eh bien, c'est de donner cette terre de Canaan pour qu'elle soit restaurée, pour qu'elle soit rachetée, pour qu'elle devienne le lieu où il allait mettre cette grande famille à travers Abraham. Et donc, notre Jacob, il va recevoir quelque chose de particulier en allant voir son oncle. Vous savez, c'est toute l'histoire de Bethel, où ce lieu est un lieu saint, un lieu où était la présence de Dieu, et où il va vivre cette échelle, la fameuse échelle de Jacob, d'échange économique entre le ciel et la terre. Et là, qu'est-ce qu'il va dire? Lui qui n'avait rien, autant son grand-père avait, Et quand il a rencontré Melchisedec, il a donné dans cette réalité une prise de conscience de l'économie de Dieu à travers la Jérusalem céleste qu'il voyait. Eh bien, il va donner la dîme de tout. Et lui, comme il n'avait rien dans les poches, il avait juste son sac à dos, le minimum pour aller chez son oncle. Et il dit, je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc on voit, il renouvelle, il rentre de nouveau dans les pieds de son, dans la marche de son grand-père. Et il va accomplir quelque chose qui est aussi encore une clé de comment Dieu fonctionne. Dieu fonctionne dans la recréation. Mais pas une recréation où il part complètement à zéro. La recréation qui fait repartir d'un point pour construire la suite. Et là, la famille a été gardée à travers Noé. Mais il fallait que cette famille rentre dans une autre dimension. Une dimension où la famille devenait quelque part un peuple famille, une nation famille. Et il fallait que ça passe par Abraham, Isaac, Jacob. Et on en est à Jacob. Et Jacob, il va repartir. Et il va avoir les douze fils qui vont construire ce peuple, cet Israël. Et là, si je vous posais la question, puisque on sait que Jacob, il aimait Rachel, il avait vraiment flashé sur Rachel, coup de foudre, donc lui, il ne désirait que ça, pas de peau. Il y avait un autre plan, qui était le plan de la bande, de son oncle, et qui lui impose finalement l'aînée Léa. Et si je lui disais, mais qu'est-ce qui est plus important pour Dieu? C'était Rachel ou c'était Léa? Parce qu'on voit, on connaît l'histoire à travers Jacob. Mais maintenant, je me positionne par rapport à Dieu. C'est qui? C'était Rachel ou Léa? Ah, bonne question. C'était Léa. Pourquoi c'était Léa? Juste un signe très fort. Léa va lui donner 4 fils. Les 4 fils, si on prend la première lettre de chaque nom et qu'on rajoute finalement une autre lettre qui appartient à Dieu, qui est ce qu'on a chanté, ce qui était avant la création. La création, c'est la maison, c'est le bête. Et avant, c'est la lèvre, c'est-à-dire c'est ce qui était dans toute la réflexion, ce qui était gardé là-haut, qui est toujours gardé là-haut et qui est en train de se réaliser. C'est la première lettre, qui est la lettre de l'unité. Donc il rajoute cette lettre dans l'unité et ça nous donne Israël. Et ce qui est beau, c'est que la première lettre, Israël, la première lettre, ça correspond finalement à Judas, et la dernière lettre va correspondre à Lévi. Et c'est intéressant que dans l'unité, la lettre qui va séparer l'unité de Lévi des autres, ben, elle est juste là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a les trois lettres, la lettre de l'unité et la lettre de Lévi. Et ce qui est intéressant aussi, parce que Dieu ne se change pas et qu'il construit toujours, il est têtu, il construit toujours son plan. Il a parlé en Exode 19, « Je ferai de vous, si vous suivez ma loi, ainsi de suite, je ferai de vous, vous êtes une nation sainte, un peuple élu, un royaume de sacrificateurs, des rois des sacrificateurs. » Il le réalise, ça n'a pas fonctionné avec Israël, il le réalise à travers Jésus, à travers son fils. Où il nous est dit dans l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Eh bien, quand on regarde le nom d'Israël, la première lettre correspond à Judas, la royauté, et la dernière lettre à Lévi, la sacrificature. Donc, vous voyez, cette unité, c'est pour ça que je vous donne tout ça. Alors, je sais bien, ça fait beaucoup de choses. Il n'y a pas de problème avec Pierre, avec moi, vous allez remplir, parce que je ne veux pas faire autrement. Parce que je trouve ça tellement merveilleux. Je me dis, si on ne libère pas la parole avec les liens qui sont dedans, vous retenez ce que vous voulez. Mais ce que je veux donner, c'est vraiment la soif, l'envie, la joie de découvrir des choses et de découvrir vraiment comment Dieu travaille, fonctionne de façon à accomplir. Ce qu'il veut, c'est donner cette épouse à son fils. Hein? Voilà. Eh bien, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver quelque chose de formidable. J'allais dire pour Léa, en Genèse 49, verset 29-31, donc je ne l'ai pas donné ça. Hein. Mais il est dit, Jacob commande, et j'ai dit, je vais, donc il est là après mourir, je vais être recueilli auprès de mon peuple, enterrez-moi avec mes pères, dans la caverne qui est au mont d'Ephron, le Hétien, dans la caverne du champ de Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté. Ce n'est pas un champ qu'il a piqué, ce n'est pas un champ qu'on lui a donné, il l'a acheté. On parle ça aussi. Hein. Il a acheté d'Éphron, le Hétien, comme propriété sépulcrale pour sa femme. Là, on a enterré Abraham et Sarah, sa femme. Là, on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme. Et là, j'ai enterré Rachel ? Non, Léa. Donc, vous voyez que le plan de Dieu est vraiment incroyable. C'est que dans le plan de Dieu, c'était vraiment Léa qui avait cette position et qui aura cette position jusque dans sa sépulcrure. Difficile à dire. Quand on va voir pour Rachel, alors là aussi, un autre monument que Dieu nous donne. En Genèse 35, 19, il est dit que Rachel mourut et elle fut enterrée où ? Sur le chemin de ? D'Éphrata. Mais encore, qui est Bethléem. Alors ce que je trouve magnifique, c'est qu'Éphrata signifie fécondité, elle qui était en difficulté. Fécondité. Et Bethléem va signifier, bien entendu, on connaît, la maison du pain. Mais qu'est-ce qui va se passer à Bethléem ? Waouh ! À Bethléem, il y a un couple, qui s'appelle Marie et Joseph, qui vont venir. Elle est enceinte, elle va donner naissance à, on en a parlé tout à l'heure, à Jésus. Incroyable. Et en plus, il s'appelle Joseph. Et le Joseph, il va être... Bon, je continue un petit peu l'histoire, c'est pas prévu ça, mais... Le Joseph, pas celui-là, l'autre, le fils de Jacob, il va être enterré où ? Hein ? Non ? Jean 4, à Sichem. Et qu'est-ce qui se passe à Jean 4 ? C'est la Samaritaine. Et qu'est-ce que fait Jésus ? C'est là où il annonce à la Samaritaine sa messianité. Avec les pieds sur la terre où est enterré Joseph. Voilà, juste pour un petit clin d'œil par rapport au temps que nous vivons, au niveau des Joseph. Ça va, vous me suivez ? Ce que j'aime aussi dans le... Bon, Gabi n'est pas là, mais il y a un verset qu'il aime beaucoup. C'est dans Josué 24, 15, où il est dit « Moi et ma maison bâtirons l'Éternel ». Et j'aime bien ce verset parce que c'est un sujet toujours un peu de controverse. C'est vrai, puisque c'est Josué qui le dit, on dit que c'est Josué qui parle de lui et de sa maison. Et puis si on remonte plus loin, on s'aperçoit que si on suit les guillemets, on s'aperçoit que là où, celui qui a ouvert les guillemets, c'est Dieu. C'est l'Éternel. Et c'est l'Éternel qui parle et qui dit... Non, c'est Dieu qui parle, c'est-à-dire Elohim, qui va dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Donc là aussi, j'aime bien ce verset parce qu'il amène aussi cette réalité de connexion entre l'Éternel et le terrestre, et Josué, qui vont parler la même chose et qui amène finalement cette réalité du ciel sur la terre. Voilà. Donc, petit clin d'œil. Après, moi, j'ai un souci avec Jésus. Pourquoi ? Parce que vis-à-vis de la famille, il nous met sous tension avec la famille. Vous n'avez pas remarqué, vous ? D'un côté, il va nous dire que celui qui n'est pas capable de quitter son père, sa mère, ainsi de suite, qu'il préfère à lui, n'est pas digne de rentrer dans le royaume. Et puis après, il va nous dire, mais celui qui finalement ne prend pas soin de son père, de sa mère, de sa famille, ben c'est pareil, il n'est pas prêt non plus. Donc on voit bien qu'il y a cette notion de choix et que les deux sont complètement interliés, il n'y a pas d'opposition. Pour Dieu, il n'y a pas d'opposition. Il est simplement en train aussi de nous montrer une réalité qu'est la croix. La relation verticale avec le Père et puis la relation horizontale au niveau de la famille. Donc ce qui a été partagé tout à l'heure au niveau des uns des autres, eh bien cette réalité-là, elle est permanente dans le cœur de Dieu. mais elle n'est jamais coupée. C'est-à-dire que je ne suis pas appelé à être coupé des autres pour Dieu, chose qu'on a pu vivre dans notre aventure, dans notre marche avec le Seigneur. On a pu vivre ça, parce qu'il y a eu des positions comme ça, de nous couper les uns avec nos familles. Non, Dieu veut nous réconcilier. Et la réconciliation, pour qu'elle puisse se passer dans l'horizontalité, il faut qu'elle se passe dans la verticalité. Parce que c'est le cœur du Père qui nous amènera à manifester le véritable amour. C'est Christ en nous qui manifeste la réalité du Père. Ce n'est pas par notre conception. On a beaucoup parlé sur l'identité individuelle. Et je trouve que c'est une merveille de pouvoir réaliser. Nous sommes merveilleusement bénis d'être conduits à réaliser cette identité que nous avons en Jésus-Christ, qui est une clé de vie indispensable pour pouvoir entrer dans les projets du Père, pour accomplir la volonté du Père. Parce que ce n'est plus nous qui faisons, c'est Christ en nous. Et dans cette réalité, on vit évidemment cette proximité, c'est-à-dire la richesse de ça, enfin ça a été largement partagé ces derniers temps, mais la richesse de ça, c'est que ça me permet de rentrer dans quelque chose où il y a une fusion, une intensité, une capacité créatrice qui est la relation Père-Fils. Et celle-ci, elle existe avant la fondation du monde. Elle existe tellement qu'elle a été le prix payé par le Père pour libérer le Fils, et le Fils a payé le prix pour pouvoir nous réconcilier avec le Père. Donc cette réalité-là, elle est constamment agissante. Elle était agissante avant la création du monde, elle était agissante pendant la création du monde, elle est agissante aujourd'hui, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que finalement l'unité de l'épouse complète, pourra rejoindre l'époux et sera dans une parfaite unité avec l'époux pour l'éternité. Vous vous rendez compte, ce projet? C'est ça qu'on a besoin de réaliser constamment. Ma vie, elle est faite justement dans la construction de l'épouse. Amen, Seigneur. Alors, c'est sûr que le Seigneur nous pose des problèmes. Vous savez, même la position de la relation avec sa mère, avec Marie, quand il est à Cana, quand il est à Golgotha, il n'appelle pas sa mère, il l'appelle femme. Pourquoi? Parce qu'il est dans cette réalité verticale de liaison avec le Père. Est-ce que ça change son amour pour sa mère? Non, pas du tout. La preuve, c'est qu'il a le souci jusqu'au dernier moment, c'était de donner à Jean, de confier à Jean la responsabilité de prendre soin de Marie, de sa mère. Et il va dire, femme, voici ton fils. Il va dire à Jean, voici ta mère. Donc on voit que Jean, il va être construit, j'allais dire, dans un cœur à travers Christ, en plus, un privilégié, une relation tellement qu'il proche qui lui permettait de poser sa tête sur la poitrine de Jésus. Et dire qu'est-ce qu'il entendait? Battre le cœur du Père. Amen. Et donc il est vraiment construit, j'allais dire, dans cette dimension de la famille. On n'est pas surpris après de voir Jean qui a une capacité de nous révéler, j'allais dire, la relation Père-Fils, et nous révéler aussi, j'allais dire, la construction de la Trinité. Tous les passages de Jean sont là, c'est-à-dire que déjà dans Jean 4, 24, il nous révèle une dimension qui est là, Dieu est esprit. C'est Jésus qui le dit. Hein. Bon, Jean l'écrit, mais c'est Jésus qui le dit. Et plus loin, verset 34, il va dire, Jésus va leur dire, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir son œuvre. Bon, le décor est posé. Il va continuer après en Jean 5, 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Oui, là, tout de suite, on sent qu'ils sont ensemble. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Waouh ! C'est-à-dire, il fait la même chose, il le fait pareillement. Ils sont tellement, j'allais dire, dans une transmission de ce qu'ils sont, qu'il ne peut pas y avoir d'écart. Je vous parle de celui qui est en nous. Hein. Je vous parle de celui qui est en nous, de comment il travaille, comment il est. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que, vous soyez dans l'étonnement. Amen, amen, amen. Il va dire en Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Il va dire, je suis bien sûr le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et si vous me connaissiez, ben vous connaîtriez aussi mon Père. C'est-à-dire que quand on voit Jésus, on voit le Père. Et quand on voit le Père, enfin on ne le voit pas, mais on voit Jésus. Et puis cette notion, l'arrivée de l'Esprit, c'est-à-dire, il a dit en Jean 4, 24, Dieu est Esprit, mais là il va dire, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, donc en Jean 14, 26, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et en Jean 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père ?» Tiens, c'est bizarre. Avant, c'est le Père qui l'envoyait. Maintenant, c'est lui qui l'envoie de la part du Père. « L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Vous voyez cette réalité de l'unité Père, Fils, Esprit. Jean nous conduit dans cette dimension-là. Et dans cette dimension-là, c'est évident que nous avons la totalité. Moi, j'aime discuter avec le Seigneur et puis lui dire, « T'es incroyable, Seigneur. » À cause de l'accomplissement, à cause de l'obéissance du Fils, à cause de tout ce qui s'est passé, à cause de cette croix, à cause du sang versé, à cause du pardon des péchés, Seigneur. Eh bien, dans ta bonté, dans ta magnificence, tu as décidé que nous devenions le temple de ton esprit, de l'esprit du Père et du Fils, comme on vient de voir. C'est-à-dire de l'esprit de celui qui construit, du Créateur, du Bâtisseur. Nous sommes complètement, je veux dire, envahis par cette réalité du Père et du Fils, les Bâtisseurs, les Créateurs. Et puis en même temps, ça pourrait s'arrêter là. Non, il fait encore quelque chose de plus. Il met Christ, il met le Fils en nous. Non ? Ah ouais ! Il met le Fils en nous. Donc nous avons cette réalité de Christ en nous, l'espérance de la gloire, qui siège dans notre cœur, lieu de décision. Donc, je ne sais pas trop, je ne sais même plus combien de temps j'ai, mais 5 minutes.
10 minutes.
Voilà. Donc... Ce modèle de la Trinité, c'est quelque chose que Dieu nous permet de vivre à travers les Écritures, à travers Jean, à travers Paul. Nous avons une réalité qui est là, le positionnement Père, Fils, Esprit, dans une verticalité et une horizontalité. Donc, c'est vraiment cela qu'on doit, je veux dire, dans laquelle nous devons rentrer, parce que ce modèle-là, je vous dis, Dieu construit toujours de la même façon. Eh bien, ce modèle-là, où le Père, où le Fils rencontre au Père, est subordonné au Père, dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il décide, dans son agir, dans sa relation, eh bien, l'Esprit va être subordonné, on l'a vu, au Fils et au Père. Et en même temps, ben, le Père, le Fils et l'Esprit, vous voyez, on a vu la verticalité, et il est dit même que c'est une fonction économique. Pour ça que c'est une richesse. Nous sommes dans la fonction économique de Dieu, du royaume. Et dans l'horizontalité, eh bien, c'est l'égalité. Ils sont de la même nature. Ils sont Dieu. Ils ont la même capacité. Eh bien, cette réalité-là, Dieu va construire la famille de la même façon. Si je ne construis pas selon le modèle, je vais rater la construction. Il faut que je construise selon le modèle, comme ça a été dit à Moïse, parce que en construisant particulièrement selon le modèle, la gloire de Dieu a pu venir dans la maison. Et c'est un peu ce que Dieu nous met en perspective, de construire selon le modèle. Le Père qui vient protéger finalement son épouse, même si l'épouse est au-dessus de lui, couronne cette couronne sur sa tête. Et ensemble, ils vont protéger les enfants. Et en même temps, de pouvoir aussi, j'allais dire, avoir cette horizontalité dans le partage, dans la capacité de pouvoir de vivre cette égalité qui est essentielle, qui est vitale. Et donc on pourrait regarder tout le fonctionnement de ça en 2h50, si vous avez le temps. Mais bien concevoir que cette réalité, c'est cette croix, d'une part que nous vivons en nous, réalité de Christ en nous, et en même temps, cette croix que nous pouvons, que nous sommes appelés à vivre dans nos maisons. D'accord ? C'est clair ? J'ai besoin. Coach, c'est clair ? Vivre dans nos maisons. Et j'aime bien, je veux dire, pour conclure maintenant, dans la partie famille, dans les cieux sur la terre, quand Néhémie va venir pour redresser la Jérusalem, il va faire appel à qui pour construire les murailles ? Il va faire appel aux familles. Et chaque famille sera dans sa maison et construira la muraille dans la part qui leur a protégé. Quand Dieu va faire la Pâque avec Moïse, cette fameuse Pâque, qui est-ce qui partage la Pâque ? Ce sont les familles qui partagent la Pâque chez elles. Et là où il y a trop à manger parce que, par rapport au nombre, ben on va inviter d'autres pour partager. Hein ? Donc on voit qu'il y a cette dimension de la famille qui est constamment présente pour Dieu. Il est famille. Et il construit la famille. La famille, c'est la pierre de construction de la société. Vous voyez le défi qu'il y a aujourd'hui par rapport à la société. Une famille qui est parfaitement construite sur les fondements que Dieu donne. Et j'avais cette pensée c'était dans Exode 25:8, comment on a pu apercevoir tout à l'heure à travers Noé et Joseph qui ont fait un sanctuaire pour leur famille. J'avais cette parole qui était là, ils me feront un sanctuaire. Ils me feront un sanctuaire. Et Dieu fait déjà un sanctuaire de nos vies. L'homme qui est créé à l'image d'Elohim, à l'image de Dieu, qui est dans une unité corps, âme, esprit. Dieu, ça aussi c'est une chose qui est forte, c'est que Dieu est un. Il construit le un. Il n'a de cesse de construire le un. J'aime dans la parole, parce que si on prenait l'exemple des cinq ministères, on pourrait croire que les cinq ministères, ils arrivent finalement dans Éphésiens 4. C'est une révélation. Non, les cinq ministères, ils sont déjà apparents à différentes choses, à différents endroits. Ne serait-ce déjà quand dans le mandat qui est donné à Adam, les cinq ministères sont là en filigrane. Mais ils vont prendre sens quand Paul va les poser comme un principe de construction. Qui sont les cinq fonctions vitales pour la construction du corps, pour l'édification, pour l'unité. Ils viennent de Christ, le un, pour produire le un, l'épouse, afin que les deux fassent un. Le couple. Dans Éphésiens 5, 25, il est parlé justement de cette réalité du couple. Réalité du couple qui représente finalement Christ et l'Église. C'est un mystère, que dit Paul. Et en même temps, pour nous, c'est une réalité dans laquelle Dieu construit. Nous sommes dans un couple uni, prophétique. Prophétique. Donc nos maisons, moi j'encourage les couples. On pourrait parler, je pourrais faire venir mon épouse et puis on pourrait parler du couple. Comment Dieu nous a construit pendant toutes ces années. Deux personnes qui avaient besoin de guérison. Et que Dieu a guéri à l'intérieur de la relation. Ça a pris du temps. Mais je veux dire, nous sommes dans un mouvement qui n'a pas de fin. C'est-à-dire qu'on s'enrichit, je veux dire, année après année, il y a une richesse qui est là au niveau de choses qui sont posées, construites par Dieu. Et je veux dire, vraiment, Seigneur, que les couples de ta maison soient prophétiques, dans ce que tu annonces au niveau de l'Église et de l'époux. Ensuite, la famille, on a beaucoup parlé. Donc, on a parlé de Matthieu 22, verticalité, horizontalité, les deux commandements, qui couvrent aussi, c'est beau, parce que finalement, c'est le premier commandement vertical, d'aimer Dieu de tout son cœur, ainsi de suite. Et je vous donne un deuxième commandement qui est finalement de la même valeur que le premier, qui est finalement de cette horizontalité qui nous est partagée. à travers Cynthia. Donc on voit que quelque part, si vous avez compris tout ce que je voulais en venir, c'est que Dieu construit des familles. Et comme il les construit avec lui-même, avec ce qu'il est, c'est pour construire des familles fortes. Pour être une famille forte, eh bien, il faut que la famille passe dans par le même chemin que j'ai pu passer personnellement. Pour devenir finalement un homme, une femme selon le cœur de Dieu, une fille, un fils du Père, il faut que je naisse de nouveau. La famille doit naître de nouveau pour devenir une famille selon le cœur du Père. Et ces familles fortes, réunies dans ce tabernacle, produisent une église forte, une église qui naît de nouveau et qui naît au projet du Père, qui naît à travers ses dons, à travers ses capacités, à travers l'économie qu'on a vue, verticalité, horizontalité. Nous avons besoin d'apprendre de l'esprit qui est en nous, la réalité du projet, du cœur, du Père, le projet de la Trinité. La Trinité, ce n'est pas simplement un concept, c'est une unité agissante qui va produire ce qu'elle est. Et c'est ça que nous devons, garder précieusement et laisser en nous grandir, un peu comme ce grain de sénévé qui va donner un arbre où les oiseaux vont se réfugier. Eh bien, c'est la même chose que Dieu est en train de faire dans nos vies. Et il va construire quelque chose qui est l'économia, qui est finalement cette économie du royaume, qui va provoquer finalement, qui va défier l'économie de la société et qui va être une réponse à travers cette économie de la relation, à travers cette économie du don, à travers cette économie du don et des capacités mises ensemble qui amènent finalement une autre réalité de construction. Parce que là encore, c'est le Père et le Fils qui construisent, qui bâtissent. Et ils bâtissent quoi? Ils bâtissent finalement cette muraille, cette cité qui va permettre à ceux qui sont à l'extérieur, qui sont menacés, de pouvoir se réfugier, des lieux refuges. Bénédiction sur ce lieu qui a été appelé lieu refuge pour l'inauguration. Donc, recevons cette destinée qui nous est d'être nous-mêmes des lieux refuges partout où Dieu nous positionne, afin que nous puissions rentrer dans ce mandat de Matthieu 28, c'est-à-dire de faire des nations des disciples de Christ. Amen. Voilà, Seigneur, te bénissons, te rendons grâce en toutes choses. Seigneur, nous avons tellement conscience que ce n'est pas nous qui pouvons construire ces choses-là. Mais nous voulons rentrer dans cette réalité, Seigneur, et nous voulons fléchir le genou devant le Père, devant toi, Père, de qui toute famille tire son nom dans les cieux, sur la terre. Je vous encourage à laisser poser maintenant la pensée de l'Esprit qui vient travailler nos cœurs, qui vient élargir, qui vient dispenser la grâce, l'amour, la réalité de la Trinité, le projet du Père qui est donné une épouse à son Fils et qui passe par la famille, pierre de construction de cette société. À travers ce que Dieu fait dans nos vies, à travers le lien qui a été rappelé tout à l'heure par Cynthia, il y a tout ce projet de construction, ce projet de faire cette église forte, cette communauté famille qui va manifester le cœur famille de Dieu, la bonté, la fidélité. Tout ce que Dieu dépose, cette parole de vie qui est Christ. Seigneur, cette économie qui est Christ lui-même. Vous savez, l'économie du Père, l'économie du royaume, c'est Christ. Il n'y a rien en dehors, tout est en lui. Chaque fois que nous proclamons son nom, nous apportons non seulement une bénédiction au niveau de la personne, mais nous apportons une bénédiction au niveau des nations. C'est la réponse économique pour les nations. Nous bénissons, Seigneur, ton projet, qui est un projet qui dépasse, mais dans lequel tu nous fais partenaire avec toi, Seigneur. Tu veux marcher, construire, bâtir avec nous. Et tu t'es mis en nous afin que nous soyons avec toi en permanence. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pensée du Père, planer entière. Merci pour ton esprit, Seigneur, qui nous révèle ce que tu es, qui nous amène dans la vérité, l'esprit de vérité, qui vous conduit dans la vérité. Tu es le chemin, la vérité et la vie, Seigneur. Nul ne vient au Père que par toi, Seigneur.